Gloire à Dieu, nous bénissons le Seigneur pour la grâce qu'il nous accorde de nous retrouver pour ensemble élever son nom et écouter sa parole. Nous allons prier pour recommander ce moment. Seigneur, nous prions, Seigneur, pour que tu disposes nos cœurs, Seigneur, et que nous puissions, Seigneur, être transformés à l'écoute de ta parole, Seigneur. Moi, le premier, merci de te révéler à nous. Merci de nous parler au nom de Jésus. Amen. Nous lisons dans l'évangile de Matthieu au chapitre 16. Matthieu 16, à partir du verset 13. À partir du verset 13. Jésus, étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, « Qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme ?» Ils répondirent, « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres, Jérémie, ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis ? Simon Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. » Alors, il recommanda aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ. Alors, nous revenons à la question que Jésus pose au verset 13. Jésus, étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, « Qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme ?» Alors, Jésus pose cette question aux disciples. Et bien aimé, vous savez, Jésus a marché avec les disciples. Jésus a fait toutes sortes de miracles. Il a ressuscité un mort, des morts. Il a transformé l'eau en vin. Il a ouvert les yeux des aveugles. Il a purifié des lépreux. Il a calmé la tempête. Et toutes ces choses que Jésus faisait témoignaient de qui il était aussi. Et là, on nous dit qu'il prend finalement les disciples de court. Il pose la question, que dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme ? Alors, ils répondirent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Alors, en méditant sur cette question que Jésus pose et sur les réponses aussi, parce que les disciples marchaient avec Jésus depuis, à ce moment-là, presque 2 ans déjà, ils étaient avec lui tous les jours. Mais on se rend compte de beaucoup de choses. Le thème de notre partage ce matin, c'est une question, la question que Jésus pose. Pour toi, qui est Jésus ? Mais cette question que Jésus pose n'est pas simplement une question qui appelle une réponse en disant que tu es le fils de Marie, que tu es le fils de Joseph, que tu es charpentier, que tu es né à Bethléem. Non, la question que Jésus pose va plus loin que ça. Et c'est ce que Par la grâce de Dieu, nous voulons voir, nous arrêter un instant pour méditer là-dessus. Pour toi, qui est Jésus? Alors, on se rend compte d'une chose, c'est que les disciples qui marchaient avec Jésus, finalement, les réponses qu'ils donnent montrent qu'ils ne connaissaient même pas qui était Jésus. On lit au verset 14, « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres disent que tu es Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. » Finalement, c'est ce que Jésus pose, « Que disent des gens que je suis ?» Et ils disent, « Bon, les gens disent que tu es peut-être Jean-Baptiste, parce que Jean-Baptiste est un prophète qui est venu, qui a enseigné la parole de Dieu avec sérieux, autorité, et qui appelait les humains à la repentance. Voilà pourquoi on l'a appelé Jean le Baptiste. Les autres disent que tu es Élie, parce que Élie a ressuscité un mort, Élie les miracles qu'il a fait. On se rappelle le miracle de la veuve de Sarepta qui manquait de nourriture, l'huile, Élie a multiplié cela. Finalement, les gens disent que c'est peut-être Élie qui est revenu, puisque les miracles de la multiplication du pain, du vin, de l'eau transformée en vin, bon, sont similaires. Et le sérieux avec lequel tu fonctionnes laisse penser que tu es Élie. Les autres disent que tu es Jérémie. Jérémie, le point commun avec tous ces hommes, c'est que c'était des prophètes. Jérémie est un prophète qui a parlé de la part du Seigneur. Et la particularité de Jérémie, c'est qu'il était triste à cause du péché de son peuple. Il portait le souci du peuple. Et notre premier point, c'est nous dire, finalement, le nom de Jésus suscite finalement beaucoup d'interprétations. Chacun a un avis sur Jésus. Chacun a un avis sur Jésus. Comme on voit là, Jean-Baptiste, Élie, Jérémie, ou encore un autre prophète. Mais qu'est-ce que nous voyons aujourd'hui? C'est que chacun a une idée sur Jésus. Certains pensent que Jésus était un homme sage, un sachant comme certains religieux vont dire, un homme intelligent, et ça va s'arrêter là. D'autres pour Jésus, c'est l'enfant qui est dans une crèche, qui est né dans une étable, et ça s'arrête là. Pour d'autres encore, Jésus, on n'en parle qu'à la période de Noël. D'autres encore, c'est Pâques, aujourd'hui, c'est les œufs. Les gens ne savent pas trop, mais on assimile Jésus à tout ça. D'autres, Jésus, c'est celui qui dérange, qui embête. Jésus était juif. D'autres vont dire, Jésus était noir. Il était en Égypte. Il était basané. Vous voyez, toutes sortes de spéculations autour du nom de Jésus. Et c'est ce qui se passe ici. Les disciples marchaient avec le Seigneur, mais ne savaient pas qui il était. Vous savez, en méditant ce passage, c'est l'un des passages, en tout cas en mon sens, principaux de la vie chrétienne. Parce que répondre à cette question a une implication aussi sur notre vie. Quand tu sais qui est Jésus, alors tu comprends aussi quelle est sa mission. Vous savez, Jésus, comme je disais tout à l'heure, pendant 2 ans, il a marché avec eux, mais il ne leur a jamais parlé de sa mission. Il n'a jamais dit aux disciples pourquoi il était venu sur la terre. Et les disciples qui marchaient avec lui étaient contents de voir qu'il faisait des miracles, qu'il faisait des prodiges. Ils se disaient, mais on a Dieu avec nous, mais Notre vie change. Vous rendez compte, il faut payer des impôts. Il suffit d'aller dans le poisson, prendre de l'argent dans la bouche du poisson. Mais on est à l'abri du besoin. Et beaucoup ont cette conception-là. Et le Seigneur aujourd'hui, ce matin, nous invite à faire une pause pour méditer, pour dire, qui est Jésus pour toi? Qui est Jésus? En quelque sorte, quelle est la place de Jésus dans ta vie? Quelle est la place que tu accordes à Jésus? Et voyez la question que Jésus pose. C'est l'homme, l'humain, en lui-même, ne peut pas comprendre réellement qui est Jésus. Il a fallu, c'est ce qu'on a lu au verset 16, que Dieu inspire Pierre. Jésus pose la question, vous qui êtes avec moi, qui dites-vous que je suis? Et là, silence radio. Pierre dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Vous savez, on dit souvent Jésus-Christ. Et Jésus-Christ, ce n'est pas un prénom composé comme Jean-Paul, Jean-Michel. Souvent dans les milieux chrétiens, Jésus-Christ, c'est Jésus. Non, en fait, Jésus, ça veut dire Dieu sauve. Mais Dieu qui sauve, finalement, ce Dieu qui sauve, là, Jésus, vient en personne et il a été oint. En réalité, on dirait Jésus, le Christ. Donc, il a été oint, lui, le Dieu véritable, vivant, venu sur la terre en tant que fils. Il a été oint pour cette mission-là, pour sauver les humains. Voilà pourquoi on parle de Jésus, Christ, Jésus, le Christ. Et là, Pierre dit cela. Jésus dit, ce que tu dis là, ne peut pas venir d'un humain. Bien-aimé, c'est pour nous dire que lorsque nous présentons Jésus, ne cherchons pas à convaincre par A plus B qui est Jésus. Parlons de Jésus et le Saint-Esprit convaincra les humains. Il y a des gens qui vont vous dire, moi j'ai eu des discussions avec des musulmans, qui vont vous dire, oui, sur tous les points, on est d'accord qu'il est exceptionnel, mais comment peut-il être fils de Dieu et Dieu en même temps? Alors, ne cherchons pas à aller dans ce débat. Parce que là, on vient de lire que, finalement, à cette question-là, les disciples eux-mêmes, ben, ils ne savaient pas répondre. Ils ne savaient pas. Il a fallu que Dieu intervienne pour dire qui était Jésus. Et là, Jésus dit à Pierre, tu es heureux, puisque ce que tu dis là ne vient pas de toi. Ça ne peut pas venir d'un humain. Ça ne peut venir que de Dieu lui-même par révélation. Et à partir de ce moment-là, on nous dit quoi? Il a commencé à parler maintenant de sa mission en disant, voilà le Fils de l'homme va être livré, va être crucifié, va ressusciter le troisième jour. C'est là qu'il commence à parler de sa mission. Et on se souvient que c'est le même Pierre qui refuse en disant, mais non! Tout ce que tu dis ne t'arrivera pas, parce qu'on est bien avec toi. Et Jésus dit à Pierre, arrière de moi, Satan. Mais la question d'aujourd'hui, c'est pour toi, qui est Jésus? C'est ça la question que le Seigneur nous pose. Et comme je disais, ce n'est pas une question qui nécessite une réponse comme ça directe, non. C'est une question qui nécessite une réponse, mais une réponse tous les jours de notre vie chrétienne. Pour moi, qui est le Seigneur? De quoi le Seigneur est-il capable? C'est ça la question que Jésus... Vous savez, Dieu pose parfois des questions. On se rappelle lorsqu'il pose la question à Caïn, lorsqu'il demande à Caïn, après qu'il ait tué Abel, il lui pose la question, il lui dit... non, à Adam, il pose la question aussi à Adam, il dit, mais... Tu es où? Où es-tu lorsque il a mangé le fruit de l'arbre interdit et il va se cacher? Dieu vient dans le jardin et lui pose la question, mais où es-tu? Alors, la question que Dieu pose, ce n'est pas une question comme on avait dit une fois ici, qui est liée tout simplement à une situation géographique. Où es-tu? Ben, je suis à Saint-Sever, ou je suis à Rouen, ou je suis à Grand-Couronne. Non! La question que Dieu pose en disant, où es-tu? C'est implicitement, qu'as-tu fait? Tu étais dans ma présence, mais tu es sorti des radars. Et qu'est-ce qui se passe physiquement? C'est que Adam s'est caché. Et Dieu lui demande, mais pourquoi tu te caches? Il dit, mais parce que je suis nu. Dieu lui pose la question, mais qui t'a dit? Vous voyez comment Dieu aurait pu directement aller au but pour dire, je t'ai... Non, il veut que ça vienne de l'homme. C'est-à-dire que quand il pose une question, ce n'est pas juste une question à laquelle tu réponds comme oui ou non. Non, c'est médite. Quand il dit, où es-tu? C'est quel est ton état véritable? Quel est l'état de ton cœur? Quel est l'état de ton cœur vis-à-vis du pardon? Quel est l'état de ton cœur vis-à-vis du péché? Quel est l'état de ton cœur vis-à-vis de la colère? Que dit ma parole vis-à-vis, par rapport à ton état? C'est ça la question que Dieu pose. Et là, quand Jésus pose la question, qui suis-je? C'est la même chose. C'est s'arrêter pour se demander, mais est-ce que Jésus est Seigneur pour moi? Est-ce que Jésus est mon sauveur? Bien-aimés, nous sommes tous chrétiens, tous qui sommes là. Mais la question nous est posée, puisque dans notre marche chrétienne, il nous arrive de perdre cet élément de vue. On l'oublie. Et de temps en temps comme ça, comme un cheveu dans la soupe, Jésus pose la question. Ils ont dû être surpris. Vous dites, mais comment tu poses cette question? Mais oui, mais parce que cette question-là n'est pas juste une simple curiosité. Jésus ne voulait pas juste entendre qu'on parle de bien de lui, qu'on le reconnaisse, qu'il y ait une certaine reconnaissance en disant tu es. Non, ce n'est pas ça le but. Le but, c'est que si vous acceptez qui je suis, alors comprenez aussi la mission. Comprenez aussi ma mission. Quel est l'objectif pour lequel je suis venu sur la terre? Mais ça ne s'arrête pas là. Une fois que l'objectif a été décliné, le Seigneur dira quoi? Le disciple n'est pas plus que le maître. Comme moi, j'ai fait, alors faites vous aussi. C'est ça, bien-aimé. Et c'est ça la question que le Seigneur pose aujourd'hui. Pour toi, qui suis-je? Je pense que si on nous donne le micro, on fait un micro-trottoir. Il y aura toutes sortes de réponses. Mais ce n'est pas ça le but. Le but, ce n'est pas de répondre, de donner une réponse qui puisse satisfaire en disant « Ah, il a bien répondu. » Non. Le but, c'est de t'amener à prendre conscience, dire « Ah, tiens, c'est vrai que je n'y ai pas pensé. C'est vrai que je suis passé à côté. » Vous savez, avec les années, on devient des fonctionnaires, des professionnels, chrétiens professionnels. Le titre chrétien devient comme un palmarès qu'on a. Bon, Jésus, ce n'est pas une religion. Jésus vient pour nous faire entrer dans la relation avec le Père. C'est ça, Jésus. Et là, la question qu'il pose, bien-aimé, déstabilise les disciples. Ne sont pas en mesure de répondre. Il a fallu que Dieu vienne, intervienne pour ouvrir les yeux, éclairer. Pourtant, ils marchaient avec lui depuis longtemps. Et c'est la même chose, beaucoup de chrétiens marchent. Ils ont la Bible. Quand Jésus pose « Qui suis-je ?», c'est « Quelle est la place de la parole dans ta vie ?» Bien-aimés, vous voyez, cette question-là, ça englobe tout. Quelle est la place de la parole dans ta vie? Quelle place accordes-tu à la parole? Est-ce que tu prends une partie, celle qui t'intéresse, et tu laisses l'autre? Est-ce que tu prends quand c'est l'un qui prêche et pas l'autre? C'est ça la question que le Seigneur nous pose. Pour toi aujourd'hui, qui est Jésus? Méditons là-dessus, bien-aimé. Méditons là-dessus. Et que nous allons lire, avant de continuer, lisons Luc au chapitre 24. Luc au chapitre 24, à partir du verset 13 aussi. Et voici, ce même jour, deux disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades. Et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur dit, « De quoi vous entretenez-vous en marchant pour que vous soyez tout tristes ?» L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit, « Es-tu le seul qui, séjournant à Jérusalem, ne sache pas ce qui est arrivé ces jours-ci ?»« Quoi ?» leur dit-il. Ils lui répondirent, « Ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu, devant tout le peuple, et comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Mais avec tout cela, voici le troisième jour que ces choses se sont passées. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous nous ont fort étonnés, s'étant rendues de grand matin au sépulcre et n'ayant pas trouvé son corps. Elles sont venues dire que des anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il est vivant. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont point trouvé, ils ne l'ont point vu, pardon. Alors Jésus leur dit, ô homme sans intelligence et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Christ souffrît ces choses et qu'il entrât dans sa gloire? Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Lorsqu'ils furent près du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin. Mais ils le pressèrent en disant, « Reste avec nous, car le soir approche, le jour est sur son déclin. » Et il entra pour rester avec eux. Pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent, et ils reconnurent, mais il disparut de devant eux. Voilà ce qu'on nous dit, bien-aimés. On nous parle des disciples d'Emmaüs, qui étaient aussi parmi les disciples, qui ont marché avec Jésus, qui ont entendu l'enseignement de Jésus. Mais on nous dit qu'une fois que Jésus est crucifié, ces hommes retournent chez eux, et sur le chemin, attristés, en train de ressasser le passé. Et le Seigneur arrive. On dit que leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Bien aimé, le but de ce matin, c'est que le Seigneur ouvre nos yeux pour que nous puissions voir clairement qui est Jésus. Leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Alors il leur pose la question, mais de quoi vous entretenez-vous? Vous semblez abattus. Ils disent, mais ah bon? Es-tu le seul qui, séjournant à Jérusalem, ne sache ce qui s'est passé? Mais c'est grave. D'où viens-tu? Mais il s'est passé quelque chose de grave. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais Jésus, qui était un homme, vous voyez comment ils décrivent, hein, un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu, devant le peuple, tout le peuple. Bien-aimé, la question c'est, qui est Jésus pour toi? Pour ces gens-là qui ont marché avec lui, ben, ils considéraient que Jésus c'était quelqu'un de puissant, de fort, un prophète qui a fait des prodiges, mais en même temps, une sorte de révolutionnaire. Quelqu'un, vous savez, le contexte c'est que les Juifs étaient sous la domination romaine. Et notamment les Zélotes et d'autres encore groupes attendaient qu'il y ait un libérateur qui émerge pour pouvoir les délivrer. Vous savez comme ça se fait, hein, avec Gandhi, avec Nelson Mandela. Vous savez, il y a toujours un leader qui apparaît comme ça pour parler pour les autres. Alors Jésus était mis au même niveau. Un homme sage, charismatique. Mais en plus de tout cela, bah, il fait des miracles. Donc c'est formidable. Mais qu'est-ce qui se passe? Jésus est livré, crucifié. Alors ces hommes se disent, mais nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Nous pensions que la délivrance viendrait de lui. Et on nous dit que le Seigneur dit à ces hommes, verset 25, « Oh, hommes sans intelligence !» C'est ça, bien-aimé, le but de notre exhortation aujourd'hui. Que Dieu ouvre notre intelligence pour réaliser. Vous savez, dans les réseaux sociaux, partout, sur WhatsApp, les gens envoient des messages. « Happy Easter, joyeuse Pâques, ceci !» Mais, vous savez, tout ça est devenu tellement religieux, traditionnel. Quel sens? Aujourd'hui, poser la question, même à des chrétiens qui sont ici, là, si on pose, pour certains, on associe Pâques au chocolat. C'est ça la réalité? Pour d'autres, si on pose la question, qu'est-ce que ça veut dire? Pâques, mais beaucoup vont bégayer. Bien-aimés, c'est la question que le Seigneur nous pose aujourd'hui. Il a posé deux questions. Que disent les gens que je suis? Et vous, qui êtes avec moi? Qui êtes mes proches? Vous, qu'est-ce que vous dites? Puisque vous êtes avec moi. Les autres, ils sont dans l'apparence. Ils voient de loin. Mais là, on entre dans les choses sérieuses. Vous savez, quand Jésus pose cette question-là, il sort de la superficialité, de l'apparence, il va maintenant en profondeur dans la relation avec les disciples. Voilà. Vous savez, quand quelqu'un décline son identité, c'est qu'il se dévoile d'une certaine manière. C'est ça qui se passe. Et Jésus, là, il aurait pu commencer à dire, vous savez, moi je suis le Fils de Dieu, vous savez, mais ils auraient cru. Mais il a fallu qu'ils posent la question et que la réponse vienne d'eux-mêmes. C'est ça la réalité, bien-aimée. Et ces hommes, disciples d'Emmaüs, ont marché avec le Seigneur. Ils ont été avec lui. Ils ont vu les prodiges que le Seigneur a fait. Eux-mêmes, ils en parlent. Ils ont entendu la parole. Ils ont vu les miracles que Jésus a fait. Mais une fois Jésus crucifié, toutes ces choses-là passaient aux oubliettes. Bien-aimés, combien de fois nous témoignons pour dire « Oh, Jésus est merveilleux, Jésus est bon, Jésus est grand. » Mais quand on t'apprend, on te donne une mauvaise nouvelle. Comment tu réagis? On nous dit que ces hommes étaient tristes. Et c'est ce qui nous arrive. Le véhicule est en panne. Le remboursement du crédit n'est pas passé à la banque. Vous savez, quand c'est comme ça, la banque ne manque pas de ressources. T'appelles, ils t'envoient un texto, ils t'envoient un courrier, ils t'envoient un courriel, ils t'envoient tout en même temps. Et là, on se met à paniquer. La question ce matin, qui est Jésus? Vous savez, pour ceux qui lisent les pensées du jour, et pour ceux qui s'en souviennent, dans la dernière pensée du jour, on nous dit que Jésus demeure, qui se rappelle? Jésus demeure comment? Jésus demeure? Ah, donc, c'est une question, hein, c'est pas... Jésus demeure? Non. Jésus demeure là. Oh, où c'est moi qui... Jésus demeure la solution, c'est pas ça? C'est pas ça dans la pensée? Mais oui. Ou bien c'est moi qui ai un problème? C'est ça, non? Jésus demeure la solution. Bien aimé, voilà. Donc on attrape les gens qui lisent. Parce qu'il y a lire et retenir ce qu'on a lu. Jésus demeure la solution. Qu'est-ce qu'on nous dit? Dans le commentaire, on nous dit... Parfois, tu penses avoir tout essayé. Mais en réalité, tu n'as pas tout essayé tant que le Seigneur n'est pas intervenu. C'est ça, Jésus. Et là, quand on t'annonce une mauvaise nouvelle, comment je vais faire? Mais comment? Tu n'as pas tout essayé, le Seigneur est là. C'est ça la question que le Seigneur nous pose aujourd'hui. Qui suis-je? Comment tu me considères? Est-ce que face au problème auquel tu fais face, je suis impuissant? Vous savez, beaucoup marchent avec le Seigneur, mais on a notre intelligence qui considère. Vous savez, le verset qu'on a lu tout à l'heure, Jean 11, lorsque Lazare meurt, Jésus discute avec Marthe. Marthe dit, oh Seigneur, si tu avais été là. Mais pourtant, lorsque nous lisons le texte, on nous dit que Jésus s'est réjoui même de la mort de Lazare. Il dit à ses disciples, je suis content que cela arrive ainsi et que je n'ai pas été présent. Mais bien aimé, toi tu es là, quelqu'un dit de son ami, ah je suis content qu'il soit mort. Mais ça devait interpeller les disciples. Et Jésus dit quoi aux disciples? Bon, Lazare dort. Bon, ils disent, bon, si il dort, on va le réveiller. Il dit non, Lazare est mort. Mais je me réjouis de ce que les choses se soient passées en mon absence. Et quand il vient, Marthe vient pleurer pour dire, mais Seigneur, mais si tu avais été là, mais les choses... Jésus dit, oh, Jean 11, 25, il dit, mais ne t'ai-je pas dit que je suis la résurrection et la vie, que celui qui croit en moi, même s'il meurt, il vivra. Vous voyez, Marthe et Marie étaient proches de Jésus, étaient attachées à Jésus. On voit dans plusieurs épisodes, on les retrouve autour de Jésus. Elle va chercher sa sœur en disant, bon, peut-être que viens, toi viens, toutes les deux, on va réussir à faire culpabiliser le maître. Puisque de toutes les façons, Lazare est mort. Il vient trop tard. Et Marie vient, la même chose, pour dire, mais Seigneur, mais tu étais où? Mais Seigneur, mais on t'a appelé. Jésus dit dans Jean 11, 40, ne t'ai-je pas dit, crois seulement, tu verras la gloire de Dieu. C'est ça la question que Jésus nous pose, bien-aimé. Pour toi, qui suis-je? Penses-tu que je sois capable de redonner vie à une situation qui est morte? C'est ça la question, bien-aimé. Penses-tu que Jésus soit capable de cela? Est-ce que tu le crois? C'est ça la question que le Seigneur pose. Mais combien de fois on cherche à se débrouiller par nous-mêmes? Combien de fois on cherche à s'en sortir par nous-mêmes? Mais résultat, c'est quoi? Ça sera la tristesse parce que il y a des situations où Dieu seul peut intervenir. Et là, c'était la mort, les disciples d'Emmaüs tristes. Ils rentraient chez eux. Ils se sont dit, bon, on a fait une parenthèse de notre vie pour suivre cet homme. On avait beaucoup d'espoir, mais finalement, tous nos espoirs tombent à l'eau. Et Jésus dit, oh, homme sans intelligence et dont le cœur est lent à comprendre. C'est ça, bien-aimé, le but de notre exhortation aujourd'hui, c'est faire une pause. C'est ça que nous voulons que nous puissions retenir aujourd'hui. En sortant d'ici, sors avec cette question, pour moi, qui est Jésus? Pas pour ton voisin, non, pour toi. Qui est Jésus? C'est ça la question que le Seigneur nous pose aujourd'hui. De quoi est-il capable? Qu'attends-tu de lui? C'est ça la question que le Seigneur nous pose aujourd'hui. Et lorsque nous lisons la Bible, nous voyons l'histoire. Vous savez, la Bible dit, dans Jean 23, 24, on nous dit que Jésus, tout ce qui a été écrit dans la Bible, l'a été pour que nous puissions croire que Jésus-Christ est le Fils de Dieu et qu'en croyant en lui, nous ayons la vie éternelle. Tout ce qui a été écrit, Jésus dit dans Jean au chapitre 5, verset 39, il dit que les Écritures, vous sondez les Écritures, on peut le lire, hein, Jean 5, 39. Jésus dit, vous sondez, il parle aux Juifs qui se targuaient de connaître les Écritures, de mémoriser les Écritures. Il dit au verset 39, vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi, et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Il dit, vous sondez les Écritures. Vous savez, pour les Juifs, un peu comme pour les musulmans, il y a des écoles coraniques où on apprend aux enfants à mémoriser des textes sacrés, et parfois avec des mouvements comme ça, vous allez voir des enfants qui sont capables de réciter parfois 5, 6 chapitres. Et les Juifs, c'est la même chose. Lecture de la Torah. On apprend des choses. Mais Jésus dit, vous lisez ces choses-là, vous les mémorisez, mais sans les comprendre, parce qu'en réalité, toutes les Écritures parlent de moi. Tout. Et c'est vrai, bien-aimé. Tout ce qui est écrit depuis la Genèse jusqu'à Apocalypse, tout parle du Seigneur. Tout. C'est le chant que nous avons chanté là. Tout parle de toi. Tout, 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 tout. Lorsqu'on voit la naissance de Jésus. Né dans une étable. Dans quelles conditions? Et à ce moment où Jésus naît, il y a un recensement qui est ordonné par les Romains. Avec un objectif. Mais ça nous fait penser à l'histoire de Moïse, la naissance de Moïse. Quand il naît, il y a le pharaon qui exige qu'on tue tous les enfants mâles venant des Juifs. Et sa mère est contrainte de cacher Moïse, son fils. Donc l'histoire, cette histoire-là nous ramène à l'histoire du Seigneur Jésus. Lorsqu'on voit depuis l'histoire de Noé avec l'arche, où Dieu dit à Noé de construire une arche pour que ceux qui acceptent d'entrer dans cette arche soient préservés de la mort, du déluge. Cette arche-là, c'est Jésus. Lorsqu'on voit l'histoire de Joseph qui est livré par ses propres frères, qui est maltraité alors qu'il n'a rien fait de mal, ça nous raconte l'histoire de Jésus qui finalement, arrivé au moment où il peut rendre le mal, renonce à cela. Puisqu'il considère que le mal qui lui a été fait, c'était le plan de Dieu pour sauver un grand nombre. Il comprend que sa vie a été sacrifiée pour les autres. C'est ça, bien-aimé, Jésus. C'est ça, Jésus. Il s'est sacrifié pour les autres, par amour. Il s'est sacrifié pour nous. Et ça, bien-aimé, dans aucune autre religion. Vous n'allez trouver quelqu'un qui se donne pour les autres. Parce que le principe même de la religion, c'est accomplir des dogmes, des choses qui vont nous rapprocher de Dieu. Et Jésus, lui, c'est Dieu qui est venu sur la terre pour vivre au milieu des humains. Vivre avec les hommes. Pourquoi Jésus est venu sur la terre? Parce qu'il y avait le péché. Et c'est le péché qui est à l'origine de tout ce que nous vivons, tout ce que nous voyons autour de nous. Les meurtres, l'égoïsme, la méchanceté. Tout ce que nous voyons autour de nous, c'est la conséquence du péché. Et Jésus est venu sur la terre pour régler ce problème-là. Il dira lui-même dans Jean 8, 46, il dit, qui me convaincra de péché? Dans le même chapitre, Jean 8, il y a une femme qui est accusée. Alors, on vient la présenter à Jésus en disant, Maître, nous savons que toi, tu parles selon la vérité. Et voici, cette femme a été attrapée en flagrant délit d'adultère. Et la loi de Moïse nous dit qu'il faut lapider de telle femme. Alors toi, que dis-tu? Nous savons bien ton attachement. Ça, ce sont des choses que je rajoute. Hein. Nous connaissons ton attachement à la loi, à la parole de Dieu. Et vous savez, j'aime beaucoup le terme en anglais quand... On parle de ce verset-là, on dit « it was a trap », c'était un piège. Puisque de l'autre côté, ils te disent « mais tu es attaché à la loi ». Mais comme ils savent que cet homme-là, il aime beaucoup l'amour, il aime beaucoup le pardon, donc il va certainement dire de pardonner. Mais s'il dit de pardonner, il contrevient à la loi de Moïse, parce qu'il n'est pas plus que Moïse. Vous voyez le piège là où il est. Ils viennent, ils disent « bon voilà, maintenant toi, qu'est-ce que tu dis? Toi, qu'est-ce que tu dis? » Alors Jésus est là, il dessine par terre. Il dit, ok, il n'y a pas de problème. Je suis attaché à la loi. Visiblement, vous aussi, vous êtes attaché à la loi. Donc la loi doit s'appliquer. Ah, ben on est d'accord, bien sûr. Il dit, ok, mais il y a un problème. C'est que celui qui doit appliquer la loi, lui, il doit être sans reproche. Donc, voilà, je vous laisse faire. Bien-aimés, vous savez, on dit dans le texte, accusés par leur conscience. Vous savez, il y a en communication, il y a le langage verbal et le langage non-verbal. Même dans le langage verbal, il y a ce qu'on dit, il y a ce qu'on ne dit pas, mais qu'on entend. Je ne sais pas si c'est clair ce que je dis. C'est-à-dire que dans la communication, il y a des choses qu'on peut dire, mais derrière ce qu'on dit, on pense à autre chose. Mais les gens qui sont érudits, avertis, ils comprennent ce que tu dis. Et là, Jésus dit, bon, ok, que celui qui n'a jamais péché commence à accuser par leur conscience. Donc, en quelque sorte, Jésus est en train de dire, mais tout cela, vous êtes coupable. Donc, si vous punissez cette femme, vous aussi, bah, Dieu va vous punir aussi. Et là, accusés par leur conscience, ils se sont retirés. Il dit à la femme, mes femmes, où sont ceux qui t'accusaient? La femme dit, mais ils sont tous partis. Il dit, écoute, va, moi non plus, je ne te condamne pas. Va et ne pêche plus. Bien-aimé, c'est ça Jésus. Jésus est venu sur la terre pour porter les péchés des humains. Jésus pardonne, il est écrit dans 1 Jean 3:20. J'aime beaucoup ce passage qui nous dit, même si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur, lui ne nous condamne pas. Vous savez, le cœur de l'homme, combien il nous condamne chaque jour? Quand on dit condamné, c'est-à-dire, il nous accuse, le cœur nous reproche beaucoup de choses. Parfois tu fais des choses, tu dis, oh, escroc. Tu fais ça devant les gens, toi-même là dans ton cœur, là, hier, tu as menti. Tu fais le gentil comme ça devant les gens, mais tu es hypocrite. Dans ton cœur, tu viens, tu boudes. Vous voyez, notre cœur, parce qu'on peut tromper les humains, mais le cœur, qui va le tromper? Qui va tromper son cœur? Qui? Quand on parle du cœur, là, on parle de la conscience. On parle de tout ça. Mais qui peut tromper ça? Mais ce texte nous dit que même si notre cœur nous condamne, Dieu, lui, il s'autorise à nous pardonner. Parfois, on fait des choses, mais oh, Seigneur, oh, je suis vraiment mauvais. Seigneur, on est dans la culpabilité, on culpabilise. Mais le Seigneur nous dit, même si toi tu penses être mauvais, moi, je te pardonne. Un jour, on ramène à Jésus un homme alité. Jésus voit cet homme, il dit, mon enfant, tes péchés sont pardonnés. Il dit, oh là là là, mais qui est-il? Pour qui il se prend? Pour pardonner les péchés. Mais on nous dit que Jésus lit dans les pensées de ces gens-là. Il dit, pour voir que j'ai le pouvoir non seulement de pardonner les péchés, mais de guérir, il dit à cet homme, allez, lève-toi, prends ton lit et rentre chez toi. Bien-aimé, c'est ça Jésus. Qui est Jésus pour toi? C'est celui qui pardonne. Peut-être que tu es chrétien, dans ton cœur, tu vis avec le cœur serré. Tu vis avec une pointe d'amertume. Le Seigneur te pose la question aujourd'hui, mais est-ce que la vie que tu as là correspond à ce que moi je suis? C'est ça, bien-aimé, quand Jésus demande « Qui suis-je pour toi ?» C'est ça. Est-ce que l'état dans lequel tu es correspond à ce que je suis? Réponds à la question. Si c'est oui, gloire à Dieu. Si c'est non, on dit au Seigneur, « Seigneur, j'ai essayé, je n'arrive pas, mais tu demeures la solution. Viens m'aider, Seigneur. » Bien-aimé, relisons la pensée du jour qu'on a lue, qu'on nous a envoyée, parce que visiblement, beaucoup l'ont oubliée. Relisons-la, bien-aimé. Ne nous arrêtons pas en disant, « Mais j'ai essayé, je n'arrive pas, mais à chaque fois, c'est la même chose. » Oui, à chaque fois, c'est la même chose. Les disciples, ils ont tout essayé toute la nuit, ils n'ont rien eu. Mais quand le Seigneur est intervenu, les choses ont changé. C'est ça, bien-aimé. La question, c'est qui est Jésus? Peut-être que tu penses déjà le connaître, tu as déjà tout maîtrisé. Mais, vous savez, le Seigneur a toujours des choses à nous apprendre. Voilà pourquoi on doit le contempler chaque jour pour apprendre de lui. C'est ça, Jésus. Il est venu pour sauver les humains. Régler la question du péché. C'est la raison pour laquelle Jésus est venu sur la terre. Il est dit, car Dieu a tant aimé les hommes qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Qui est Jésus? C'est celui qui nous donne la vie. C'est Jésus qui nous donne la vie. C'est Jésus qui nous donne le sens à notre vie. C'est lui, bien-aimé. Mais non seulement il nous donne le sens, mais il est là pour nous soutenir. Pour nous dire, tu n'y arrives pas. Voilà. Maintenant, moi, je veux t'aider. Vous savez, quand il rencontre l'homme dans Jean 5, il s'arrête à son niveau. Il lui dit, monsieur, veux-tu être guéri? Oh là là, veux-tu être guéri? Ça fait 38 ans que je suis là, hein. Veux-tu être guéri? Oui, mais pour être guéri, il faut être plongé dans l'eau. Mais pour être plongé dans l'eau, il faut attendre que l'ange vienne. Une fois que l'ange est arrivé, il faut être le premier à entrer. Mais ça fait beaucoup, hein. Ça fait beaucoup de conditions. Ça fait beaucoup de conditions pour l'homme. Jésus regarde cet homme, il dit, écoute, lève-toi, prends ton lit, rentre chez toi. Bien-aimé, vous savez, cette histoire de Jean 5 nous montre la solitude de l'homme. Nous sommes dans un monde où on est entouré, on a beaucoup d'informations, on a des smartphones, on a tout, tout, tout. Mais en réalité, l'homme est seul. Et face au problème, qui va t'aider? Parce que chacun a ses problèmes. Qui va t'aider? Qui? Chacun a ses problèmes. Et quand l'eau est secouée, il n'y a pas eu un gentil qui est venu pour lui dire, bah, tiens, viens, je vais t'aider. Viens. Non, il était là depuis 38 ans. Mais c'est le Seigneur Jésus qui vient à lui, puisqu'il a vu sa souffrance. Bien-aimé, qui est Jésus? C'est celui qui entend, qui voit nos souffrances et qui vient à nous. Bien-aimé, n'est-ce pas merveilleux? Tout ce qu'on dit là, bien-aimé, la conséquence de tout ça, c'est que je dois décider de vivre pour lui désormais. C'est ça l'enseignement de ce matin, c'est nous dire... Une fois qu'on a décrit toutes les caractéristiques de Jésus, Alors, pourquoi traîner les pieds quand on dit va servir le Seigneur? Pourquoi traîner des pieds? Il y a des gens, le culte, c'est 10 heures, il arrive à 10 heures moins une. Tu me diras, oui, mais il n'a pas péché. Mais non, ce n'est pas une question de ne pas pécher ou pas. Moralement, ce n'est pas mauvais. Ce n'est pas une question de bon moralement ou pas. Ce n'est pas ça. C'est une question d'amour pour le Seigneur. C'est une question d'amour pour le Seigneur. Quand quelqu'un aime le Seigneur, il se précipite. Il ne perd pas une minute pour le Seigneur, non. Le Seigneur nous pose la question, qui suis-je pour toi? Il y en a qui viennent le dimanche, tout simplement parce que c'est dimanche. Ou alors parce que si je ne viens pas, on va m'envoyer un texto, on va m'appeler pour me demander qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe. Non, mais si c'est pour ça que tu fais les choses, reste chez toi. Et nous, nous allons prier pour que Jésus se révèle à toi, que tu comprennes qui est Jésus. Bien-aimé, c'est cela. Entrons dans cette révélation-là. Vous savez, quand je pense autrefois, aujourd'hui on a le minibus, mais autrefois, on a fait des missions parfois à Orange, à Masseub, mais vraiment dans le sud de la France, avec un véhicule qui tirait une remorque, et on avait calculé dans cette remorque-là, il y avait presque 800, 900 kilos de matériel. Parfois, on a eu des véhicules qui sont tombés en panne parce que l'embrayage poussait une telle charge. Et je dis 900 kilos de matériel parce que le véhicule lui-même, il avait aussi du monde, peut-être 7 personnes. Donc, on avait peut-être une tonne. Vous vous rendez compte, on avait 1000 kilos. Le vent, les... Et une fois, il y a un frère qui dit, mais attendez, mais vous êtes inconscient. Vous prenez tous ces risques pour aller faire un concert dans lequel il y aura peut-être 2 ou 3 personnes. Donc, le bénéfice risque te dit quoi? Mais non, mais laisse tomber. Mais bien aimé, Jésus, lui, pour même une seule personne, il fait le déplacement. On n'est pas dans une logique comptable où on se dit, mais qu'est-ce que je dépense et qu'est-ce que je gagne? En fonction du ratio, bon, je m'engage ou pas. Mais non, Jésus, lui, pour lui, il est écrit qu'une seule âme, c'est une âme de sauvé qui produit la joie au Père. Bien-aimés, réalisons qui est le Seigneur. C'est ça notre exhortation ce matin. Combien de fois nous passons du temps sur nos réseaux sociaux, sur les smartphones? Et combien de temps nous passons, nous consacrons à Jésus? On a dit la question d'aujourd'hui, ne réponds pas par « je ceci ». Non, réponds par ta vie. Réponds à cette question-là. Qui suis-je par ta vie? Est-ce que tout ce que tu vois autour de toi te ramène au Seigneur? Quand Jésus te ramène au Seigneur, c'est-à-dire que tu ramènes tout à disant, Seigneur, voilà un sujet de prière. Puisque je sais que toi, tu peux changer toute situation, puisque tu demeures la solution, alors je te recommande cette situation. Seigneur, regarde la France telle qu'elle est. Seigneur, regarde le monde tel qu'il est. On pensait que le monde était sûr. Mais bien aimé, en quelques mois, on voit que finalement le monde est incertain. Coronavirus est passé par là. La guerre en Europe. Aujourd'hui, les spécialistes disent que les pays les plus vaccinés, eh bien, ce sont ceux dans lesquels il y a les plus grands cas. Mais finalement, on ne comprend plus rien. Finalement, on ne comprend plus. On pensait que c'était la sécurité sociale, les bons traitements. Mais finalement, ceux qui vivent en Afrique, dans les champs, dans le soleil, sans rien du tout, mais ils ne connaissent pas tout ce qu'on vit là. Mais ça va en devenir fou. Tout ça, ça nous montre que Jésus seul est le véritable refuge, comme il est écrit dans les psaumes, je crois, que Le nom de l'Éternel est une tour immense. Le juste s'y réfugie et il est en paix. Et c'est en Jésus, bien-aimé, que nous sommes en paix. Cet homme à la croix dit à Jésus, « Seigneur, nous, ce qui nous arrive, nous l'avons mérité, mais nous sommes mauvais. Je suis mauvais. Souviens-toi de moi. Mon salut à moi ne tient qu'à ta miséricorde et ta grâce. » Jésus lui dit, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Qui est Jésus, bien-aimé? C'est la porte qui nous ouvre le ciel. Il dit, passez par la porte. Il dit dans Jean 10, je suis la porte des brebis. L'image que j'aime apprendre, c'est dire que cette porte-là, c'est une porte qui est faite sur mesure. Et pour entrer par cette porte-là, il n'y a que Jésus. Donc tous les humains par eux-mêmes ne peuvent pas passer par cette porte. Il dit, je suis la porte des brebis. Il faut passer par moi pour entrer. Alors pour entrer par cette porte, il faut entrer en Jésus. Et c'est Jésus qui te fait entrer maintenant. C'est ça qu'il dit à cet homme, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Qui donne cette garantie-là dans ce monde? Qui garantit cela? Seul Jésus. C'est ça, bien-aimé. Il y a tellement de choses à dire sur Jésus. Mais, bien-aimé, lisons la parole, lisons les évangiles, les quatre évangiles qui nous parlent de Jésus, de ce qu'il a fait. Mais dans tout ça, la question aujourd'hui, c'est que représente Jésus pour toi? Peut-être que tu es mélancolique, tout le temps triste. Vous savez, un mélancolique, c'est quelqu'un qui est triste, parfois triste sans savoir pourquoi il est triste. Alors dis au Seigneur, Seigneur, il y a de la tristesse dans mon cœur. Peut-être qu'il y a une situation qui me rend triste aussi, puisque j'attends ceci. J'attends cela comme les disciples d'Emmaüs. Seigneur, j'ai prié pour ça, mais il n'y a rien qui se fait. Au contraire, ça se passe mal. Je vois le contraire, bien-aimé. La pensée du jour, tant que tu n'as pas fait appel au Seigneur, tu n'as pas tout essayé. Alors fais appel au Seigneur. Si tu crois qu'il est tout-puissant, alors fais appel au Seigneur. Vous savez, Jésus nous raconte l'histoire de cette veuve dans Luc 18. Il dit qu'une veuve avait affaire, on va s'arrêter là, à un juge inique, méchant. Mais non seulement méchant, tout puissant, mais qui n'avait d'égard pour personne. Donc c'est-à-dire qu'il ne considérait personne. Vous voyez, ça fait beaucoup pour un seul homme. Hein. Comme quelqu'un dirait, un cumulard, il cumule. Non seulement il est juge, donc il a le pouvoir, il est méchant. Donc il est certainement injuste dans sa façon de faire, mais en plus, non seulement il est injuste, mais il ne considère pas les gens. Ça fait beaucoup. Mais on lui dit qu'il y avait une femme qui tous les jours allait voir cet homme pour plaider sa cause. Et un jour, cet homme se décide de prendre en charge le problème de cette femme. Alors Jésus nous dit, il dit, mais regardez ce que nous apprend cette histoire-là. Si ce juge-là qui est mauvais finit par faire justice à cette femme, qui n'a pas de défense par ailleurs, qui n'a personne, qui n'a pas d'avocat, le Seigneur a dit, mais à combien plus forte raison? Votre Père, lui, n'est pas méchant, il est bon. Alors à combien plus forte raison, notre Dieu? C'est cela, bien-aimé. À combien plus forte raison? Alors lorsque nous réalisons cela, on peut s'approcher du trône de la grâce, comme il est écrit. Lorsque nous réalisons cela, qui est Jésus? On vient avec autorité. Vous savez, c'est comme quand tu arrives quelque part dans une administration ou dans un endroit avec une recommandation. Vous savez, tu arrives, tu es fier. Parce que quand tu arrives, les gens vont te regarder. Mais monsieur, ouais, je viens de la part de monsieur un tel. Mais toi, tu sais que le monsieur un tel, là, c'est le boss de tout le monde. Donc, tu es fier toi-même quand tu arrives, limite les mains en poche. Tu attends qu'on te dise, monsieur, qu'est-ce que vous voulez? Monsieur, j'arrive de... Ah, d'accord, ok. Ok, patientez là. Voilà. C'est peut-être que c'est déjà arrivé à certains. Moi, ça m'est déjà arrivé. Là, tu es tranquille. Tu sais que tu seras pris en charge. Et celui qui t'accueille aussi, il sait que derrière, il y aura un feedback. C'est-à-dire que celui qui te recommande va te demander, mais est-ce que tu as été bien traité? Donc, tout le monde a intérêt à bien te recevoir parce qu'ils savent que derrière, il y aura un rapport qui sera fait. Et bien aimé, nous avons le nom de Jésus. Nous avons le nom de Jésus. Alors la question du Seigneur ce matin, qui est Jésus pour toi? C'est la question. Nous allons prier pour que le Seigneur nous aide à méditer sur ce qui a été dit et à répondre aussi à la question à quelle place nous mettons le Seigneur dans nos vies. Seigneur, nous bénissons ton nom pour ta parole, nous prions pour que tu nous aides à réaliser, Seigneur, ton amour pour nous, Seigneur. Il est écrit dans Romains 5, à peine mourrait-on pour des hommes justes. Ce qui est normal, parce qu'ils en valent la peine, Seigneur. Mais toi, Jésus, tu es mort pour nous, qui étions injustes. Il est écrit que l'amour de Dieu, source de salut, a été manifesté en Jésus-Christ. Seigneur, ouvre nos yeux pour que nous puissions te connaître, Seigneur. Révèle-toi à nous, Seigneur. Seigneur, que le message de ce matin nous amène à prendre conscience, Seigneur, de qui tu es, Seigneur, et de quelle place, Seigneur, nous t'accordons aussi dans nos vies. Nous voyons que les disciples qui ont marché avec toi ont été incapables de répondre à cette question. De la même manière, Seigneur, il nous arrive, Seigneur, de faire des choses parce que nous sommes dans une équipe, parce que nous avons des responsabilités, parce que nous sommes peut-être aussi un modèle pour d'autres. Et nous en venons à négliger l'essentiel, Seigneur. Ce que tu es notre maître, notre roi, notre Dieu, le Dieu vivant. Seigneur, manifeste-toi, Seigneur, à nous ce matin. Parle-nous. Peut-être que certains, comme les disciples d'Emmaüs, sont dans la tristesse, ont perdu tout espoir en pensant que les choses ne changeront plus. Seigneur, nous prions, Seigneur, pour que tu nous aides à croire qu'avec toi, Seigneur, tout est possible. À avoir foi, Seigneur, que même si nous avons tout essayé, Seigneur, et que nous avons échoué, qu'avec toi, Seigneur, nous allons réussir parce que c'est toi qui agis. Merci pour l'œuvre que tu fais dans nos vies. Merci pour ton esprit qui parle à nos cœurs, Seigneur, ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Amen.